Le silence des petits papiers, chapitre 42. L'inspecteur Caminon, le docteur Mourinho et Georges D'Assouza savouraient à la terrasse du café leur apéritif hebdomadaire. Ils aimaient se retrouver à refaire le monde après les vicissitudes du quotidien. Cette semaine s'était déroulée différemment des précédentes. Chacun, dans son domaine, était confronté à la disparition de Marilyn de Baya. Pour la première fois de sa vie, le journaliste avait rencontré la mort, un rendez-vous morbide qui l'avait profondément choqué. Il avait croisé quelques cadavres dans le cadre de ses activités, mais ne s'était jamais retrouvé seul dans la pénombre à patauger dans une mare de sang. Lui, qui d'ordinaire dormait d'un sommeil de plomb, cauchemardait chaque nuit. Sa curiosité naturelle l'incitait à en savoir plus sur l'existence de la victime. Le policier reconnaissait qu'il n'avait jamais eu à traiter d'un assassinat aussi barbare. À son tour, il se triturait les méninges pour trouver à qui profitait le crime. Il s'était mis à la tâche avec ardeur. Il faut dire que dans la région, les affaires de ce type sont exceptionnelles. À ce stade des investigations, ses pistes étaient bien minces. Il écartait un crime de rôdeur. L'acharnement et la mise en scène ne plaidaient pas en faveur de cette hypothèse. Le médecin, plus réservé que ses amis, se contentait des constatations d'ordre médical. Il éclaira ses compagnons sur quelques détails. Il précisa que selon ses probabilités, la vieille femme avait été exécutée à quatre pattes dans une position humiliante. Il avait constaté cette particularité en examinant de plus près la position du corps, ainsi que la rigidité cadavérique. Cette réflexion surprit les deux autres. Il leur expliqua dans son jargon professionnel ce qui justifiait ses affirmations. Ils ne comprirent pas tout, mais les compétences de leur ami ne permettaient pas de mettre sa parole en doute. Dans ce coin reculé de l'Algarve, les moyens mis à la disposition de la police se perdaient dans les méandres de l'administration. Ils s'évaporaient tout au long du voyage. Lorsqu'enfin les subsides parvenaient jusqu'au destinataire final, il ne restait que le strict nécessaire au maintien de l'activité. Alors, quand une affaire de cette envergure se profilait à l'horizon, il fallait opérer avec des bouts de chandelle. Camignon était habitué à ces restrictions permanentes. Il opérait sans le secours des méthodes modernes. Mourinho devait faire face à la même situation que l'inspecteur. Les budgets complémentaires n'arrivaient pas jusqu'à lui. Il réalisa l'autopsie en mettant en œuvre son savoir et ses capacités. Il put ainsi déterminer l'heure du décès et la nature de l'arme ayant servi à cette basse besogne. Marilyn croisa la faucheuse vers 10 heures du matin. Sa dépouille, bloquant la porte d'entrée, personne ne pouvait la découvrir, sauf à insister pour pénétrer dans le restaurant coûte que coûte. La gorge nettement tranchée, Mourinho pense que l'assassin s'est servi d'un coupe-chou, nombre d'anciens utilisant encore ce type de rasoir dans le pays. Georges n'était pas touché par la pénurie d'argent. Il opérait surtout avec sa matière grise. Son bon sens se révélait plus efficace que n'importe quel outil moderne. Il n'avait accepté que 2 concessions à l'avancée inexorable du progrès. Désormais, il avait rangé son vieux Leica au profit d'un appareil numérique. Question de gain de temps. Le second changement, c'était Internet, il envoyait ses articles par ce biais. Chaque compagnon œuvrait dans son domaine. Celui du docteur s'était terminé à la morgue de l'hôpital. Les autres fouillaient dans le passé de la tenancière. Ils espéraient découvrir le coupable le plus rapidement possible. Au troisième verre, le Toubi fit une révélation qui se termina dans un long fou rire. Il leur confia que Marilyn de Baya se teintait les poils pubiens en blond. Ce comportement d'une femme de plus de 80 printemps démontre un besoin de coquetterie à tous les étages. Camignon s'efforçait de reconstituer l'histoire familiale de la victime. Il espérait trouver un élément de réponse dans cette direction. Malgré son insistance, il dut admettre qu'on ne lui connaissait pas d'amis. Elle n'avait vécu que pour son commerce, avec son fameux poulet Pili Pili. Hormis le désordre sur la scène du crime, rien d'anormal n'avait été décelé ailleurs. Le vol ne constituait pas le mobile, car une importante somme en euros fut trouvée dans le tiroir d'un meuble de la cuisine. L'argent ne bénéficiait d'aucune protection particulière. Une serrure avec la clé dessus gardait ce pécule. Les trois hommes savouraient la tournée du patron lorsque Georges parla des petits papiers entourant le corps sans vie. Il pensait que la solution de l'énigme résidait dans un de ses confettis. Camignot lui rétorqua qu'il ne disposait pas du temps nécessaire à l'examen de chaque billet posé là. Il y en avait trop, et la plupart des épistolaires résidaient dans un autre pays. Si l'ami journaliste désirait se pencher dessus, il va sans dire qu'il lui permettrait de revoir les ex-voto à sa guise. Georges apprécia cette marque de confiance renouvelée. 40 années d'amitié ne s'effacent pas comme ça. L'inspecteur éclusa son verre et lâcha une ultime information avant la séparation provisoire du trio. Connaissez-vous le véritable état civil de Marilyn ?
Hormis qu'elle n'a eu qu'un enfant, c'est tout ce que je suis sûr, répondit Mourinho.
Elle était veuve d'Alfonso Pinheiro, ajouta Georges.
C'est entendu, mais c'est un détail plus particulier que j'attendais.
Nous t'écoutons, répliquèrent en chœur le médecin et le journaliste.
C'est tout chaud, j'ai eu cette information ce matin.
Marilyn a été abandonnée par sa mère, une Française. Elle a été recueillie puis adoptée par la famille Alvera, qui n'avait pas d'autres enfants.
Penses-tu que la vérité se trouve cachée par là ? Demanda Mourinho.
C'est possible, sauf qu'il n'y a aucune trace d'autres membres de cette famille.
Comment s'appelait sa mère ?
Renseignement top secret, bien entendu.
Je te le dis, mais n'écris rien dans le journal pour le moment.
Promis.
Elle se nommait Thérèse Duraz.
De quel endroit de France venait-elle ?
Georges, tu enquêtes aussi. Elle était née en Savoie et est décédée en Italie en 91.
Autre chose, son fils n'a vécu que quelques années ici. Il habite actuellement en Italie. Nous essayons de le contacter sans succès. Nous perdons sa trace lors d'un voyage en France.
Alors les fins limiers, où se trouve la solution ?
Dans les billets du restaurant ou dans les registres de l'état civil ? Questionna Mourinho.
Je vous laisse. Le devoir n'attend pas.